Chapitre 19.
Bravo. Le prétendant au titre de Messie accusé d'euthanasie à Lourdes. On pouvait pas rêver mieux.
Irwin éloigna le téléphone de son oreille. Buddy Kupperman venait de le réveiller en sursaut et il essayait de rassembler ses idées au milieu du torrent d'imprécations que déversait le scénariste.
C'était une idée à vous de l'envoyer dans ce bled à la con. Ne comptez pas sur moi pour porter le chapeau, Glasner.
Je ne compte pas sur vous. J'assumerai l'entière responsabilité devant le président. Du coup, l'acrimonie de Buddy bascula dans l'autocritique. S'il avait accompagné la délégation en France, peut-être que rien ne serait arrivé. Irwin se faisait le même reproche. Tous deux avaient renoncé au voyage à Rome via Lourdes par délicatesse. L'un en tant que juif, pour ne pas avoir l'air de parrainer Jésus auprès des autorités catholiques, et l'autre par crainte de causer du tort à un lieu de miracle en y trouvant la mort, 11 heures d'avion pressurisé n'étant pas l'idéal pour une tumeur au cerveau.
« On fait quoi maintenant ?» reprit Kupperman plus calme. « On a dédommagé la famille et les témoins, filé une donation à l'hôpital, de ce côté-là, on est tranquille. L'histoire n'ira pas à transpirer jusqu'à Rome. Mais on ne peut pas laisser Jimmy là-bas, ni le montrer au Saint-Siège dans l'état où il est. »
« Comment réagit-il »«
À votre avis. Hentridge a essayé de le mettre en cure de sommeil, il refuse. Il ne parle plus, il ne veut plus voir personne. » L'évêque s'arrache les cheveux, il ne sait quel prétexte inventer pour repousser la date de l'examen. En plus, les échos sont excellents au Vatican. Un cardinal lui a personnellement téléphoné pour lui dire que le dossier était remonté jusqu'à l'Académie pontificale des sciences. On était à deux doigts de réussir, merde!
Qu'est-ce qu'on fait? On le rapatrie? Irwin demanda une heure de réflexion. La communication coupée, il regarda son réveil, alla prendre une douche, s'habilla et, le cœur battant, composa le numéro de la Banque de France. Le secrétariat du Mouvement Général des Fonds le fit patienter en musique. Envahi par la tristesse du prélude de Bach, le front contre la vitre de son living qui ressemblait à une salle d'attente, Irwin regardait, sous la lueur crue des lampadaires, le Potomac charrier ses poissons morts à travers les beaux quartiers de Washington. « Oui ?» fit la voix de son fils. Ravalant son émotion, il s'efforça de prendre un ton dégagé. « Bonjour Richard, je ne te dérange pas ? Je t'écoute. Tu vas bien ? Je suis en réunion. Pardon, c'était juste... Enfin, c'était pour te demander si tu es toujours en relation avec ton ami Jérôme d'Hermanville. » Après 3 secondes, Richard Glasner répondit « Je te repasse ma secrétaire, elle cherchera les coordonnées. Au revoir. » « Tu pourrais me demander de mes nouvelles ?» laissa échapper Irwin sur un ton d'aigreur qu'il se reprocha aussitôt. Richard n'était pas au courant de sa tumeur. « Pourquoi ? Ça ne va pas ?»« Si, si !» s'empressa Irwin. « Je suis en plein conflit avec Bruxelles, je te rappelle. » Il raccrocha. Il ne rappelait jamais. Il envoyait une carte pour le nouvel an, une caisse de vin aux anniversaires. Il avait beaucoup de travail, des responsabilités, des comptes à rendre. Une belle famille, des femmes, des chevaux. Son père n'était qu'un absent qui a tort. Lui téléphoner pour avoir le numéro d'un de ses anciens camarades de lycée, devenu bénédictin dans les Hautes-Alpes, n'était peut-être pas la meilleure idée pour tenter un rapprochement. Athée convaincu, Richard ne lui avait jamais pardonné d'avoir fait sortir sa mère du service de soins palliatifs 4 ans plus tôt pour l'emmener dans la fournaise surpeuplée d'un pèlerinage à Lourdes, qui avait hâté sa fin.
« J'ai trouvé les coordonnées de l'abbaye de Saint-Gilles, monsieur le conseiller !» claironna la secrétaire.
Un goût amer dans la bouche, Irwin remercia et téléphona au monastère. Frère Jérôme parut content de l'entendre. Devenu maître de chœur en chant grégorien, il n'oubliait pas les conseils attentifs que lui avait prodigués le père de son meilleur ami durant sa crise mystique au lycée Charlemagne. Irwin s'ouvrit à lui, sans trahir le secret défense, décrivant son compatriote comme un juif converti au catholicisme, déchiré pendant son séjour en France entre la confusion morale et le sentiment de culpabilité. Frère Jérôme en référa au père abbé, puis assura Irwin que la personne serait la bienvenue, pour le temps qu'elle voudrait. Averti de cette possibilité d'une retraite transitoire dans une abbaye bénédictine non loin de la frontière italienne, Buddy Kupperman applaudit sans réserve. On ferait en sorte que Jimmy pense avoir choisi lui-même ce refuge. Ainsi, le contact d'Irwin pourrait le surveiller sans qu'il se méfie et transmettre ses rapports à l'équipe basée dans un hôtel voisin. Silence, pénitence et ambiance grégorienne. Dans son cas, on ne pouvait trouver mieux pour une remise en forme. Buddy en parlait comme d'une thalasso et Irwin raccrocha très vite. Il se déshabilla, se remit au lit, se rencogna dans sa douleur. Le lien psychique qu'il essayait de maintenir avec Jimmy, de l'autre côté de l'Atlantique, mettait son crâne en feu et torturait sa conscience. Après celle du père Donoway, de l'érable et des chiens, la mort de la petite fille était une épreuve terrible, qui devait confirmer ses pires craintes, justifier ses hypothèses les plus absurdes. Irwin l'entendait sans cesse répéter les propos qu'il avait tenus sur le lac. En essayant d'influencer, d'avoir une action positive, je dérègle quelque chose d'essentiel. Chaque fois que je crois faire le bien, je renforce le mal. Et si Jimmy avait raison? S'ils avaient fabriqué l'Antéchrist? Il noya cette pensée dans les somnifères et la honte de fuir ses responsabilités lui refusa le sommeil. Il essaya de travailler. Les piles de Science et Nature qui s'effondraient autour de son lit le dégoûtaient autant que son planning des mois suivants. Tout ce qu'il avait à faire, maintenant que le projet Omega était aux mains des instances vaticanes, était de lire les travaux des chercheurs républicains avant de les convier à déjeuner pour écouter leurs doléances et leur promettre la lune en échange de leur soutien. Il ne supportait plus cette vie. L'avenir de Jimmy était la seule chose qui pouvait le faire tenir jusqu'à l'élection présidentielle, pour peu que sa tumeur lui en laisse le loisir. Ensuite, il se retirerait de la politique. Mais si Jimmy craquait, s'il renonçait à la mission qu'il avait acceptée, à quoi bon continuer? Le revolver était chargé dans le deuxième tiroir de la table de chevet. La répulsion que lui inspirait le suicide n'était pas seulement de nature religieuse. Le vrai problème était qu'il conforterait Jimmy dans l'idée que tous ceux qu'il voulait guérir finissaient par en mourir. Cela dit, Jimmy ne savait pas de quoi il l'avait soigné. Et ça n'avait pas marché. Les crises étaient de plus en plus fréquentes. Les doutes d'Irwin avaient-ils affaibli le pouvoir du clone, contribué à la mort de la petite lourdaise? En lisant les évangiles, on se rendait bien compte que plus l'audience du Christ et la foi mise en lui étaient grandes, plus les miracles étaient nombreux. Qui croyait réellement en Jimmy au sein de l'équipe? Qui l'aimait, indépendamment des objectifs que chacun s'était fixés? Le rabbin Chodorowitz, après lui avoir donné la formation exigée par le département d'État, avait le mieux résumé la situation. Ils s'étaient tous pris au jeu en construisant le golem, et leur foi n'était que nombrilisme, orgueil, ambition projetée. C'était leur volonté de puissance qui s'était incarnée dans la créature dont chacun, désormais, revendiquait une part de paternité, dont chacun s'estimait, consciemment ou non, le copropriétaire. Et tout cela pourquoi? Il était trop tard pour revenir en arrière, trop tôt pour avancer une réponse. On ne pouvait que remettre Jimmy entre les mains de son seul et vrai père.